tombé dans une flaque et j'ai tout le bas de l'armure qui s'est mis à rouiller. Au bout de 5 ou 6 lieues, je pourrais plus arquer.
Mais pourquoi est-ce que vous mettez votre armure pour chevaucher de Calédonie jusqu'ici? Vous devriez vous trouver une petite tenue de voyage confortable, une étoffe en lin ou quelque chose.
Un chevalier, c'est en armure. Pour chevaucher, pour se battre. Il y a un minimum de prestige à observer.
Voilà, c'est un extrait de la série Kaamelott pour parler d'un événement qui aura lieu les 6 et 7 juillet prochains. Axel, hein, 4 chevaliers vont traverser les Alpes en armure. Et les oui. Alpes en armure. Et c'est à la une de la science.
Oui, Mathieu, ce projet un peu fou d'archéologie expérimentale s'appelle Marche Alpes. Revivre en conditions réelles la traversée des Alpes effectuée par François Ier et son armée en 1515. À cette époque, le roi a peur d'une embuscade suisse et il arpente les montagnes en harnois, c'est-à-dire avec plusieurs dizaines de kilos de mailles et de cuir sur le corps. Pour en parler de cette expérience et de ses préparatifs, nous recevons par téléphone Stéphane Gall. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous allez être chevalier, vous travaillez pour l'université Grenoble-Alpes, vous êtes chercheur au CNRS, au LABEX ITEM, ça s'appelle ITEM pour innovation en territoire de montagne. Alors racontez-nous un petit peu pour commencer comment cette drôle d'histoire de reconstitution vous est venue. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'ailleurs de reconstitution ?
Alors, je préfère le mot expérimentation à reconstitution.
Oui.
L'idée m'est venue parce que je travaille depuis déjà longtemps sur les sociétés en guerre au XVIe siècle, sur la montagne. Et travaillant donc sur ces sujets, je suis tombé sur une lettre de François Ier à sa mère en août 1515. François Ier franchit les Alpes pour aller se battre à Marignan. Et dans sa lettre, il explique qu'il porte l'armure en montagne. Il explique qu'il nous fâche fort de porter le harnois parmi ces montagnes.
Mmh.
Et c'est une formule qui m'a beaucoup interpellé. J'ai essayé de comprendre, de croiser avec d'autres textes qui confirmaient effectivement que François Ier avait fait armer son escorte pour franchir les Alpes. Mais au bout d'un moment, l'historien retourne les mots, interroge les images, mais il arrive à certaines limites. Et d'où l'intérêt de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire de dépasser ses limites, on va dire peut-être un peu traditionnelles du travail de l'historien, pour essayer d'expérimenter directement la chose et d'arriver à en retirer des informations.
Alors ces armures, combien est-ce qu'elles pèsent au moment où François Ier et son armée font la traversée des Alpes ?
Alors les armures sont d'un poids très variable en fait, en fonction de la taille de l'individu, en fonction de la qualité de son équipement. On a des armures complètes de chevalier, c'est-à-dire l'exosquelette métallique avec la partie côte de maille qui va faire jusqu'à 40 kilos.
Ouais.
Et puis on a des armures plus légères à pied qui vont faire 15, 20 kilos, parfois même beaucoup moins parce qu'on n'a que certaines parties de l'armure.
Est-ce que vous avez décidé de refaire tous ces types d'armures pour l'expérimentation et que vous allez porter différents poids dans les Alpes ?
Alors oui, on a eu recours à un spécialiste, Georges Joliot, qui nous a fabriqué des armures comme celles qu'on portait en 1515. Et on a un type d'armure de cavalier, donc une armure complète avec les jambes qui sont prises dans un vêtement, on va dire, de métal. Et puis une armure d'homme à pied, c'est-à-dire que la partie basse n'est pas prise, ce qui permet de marcher évidemment plus à son aise. Et ce qui va être intéressant pour nous, c'est de voir, comme ça a été le cas pour François Ier en 1515, ce que produit la marche sur les individus qui vont devoir descendre de cheval, qui vont devoir porter leur armure, et donc tout ce poids, dans un milieu complètement inadapté, bien sûr, aux armures.
Et la marche de François Ier était faite aussi en juillet, en plein été ?
Alors lui, il a marché en août, essentiellement, mais des troupes étaient déjà passées, effectivement, en juillet.
Alors vous avez dit tout à l'heure, c'est une expérimentation en archéologie. Quelles sont les observations, les mesures scientifiques que vous allez réaliser pendant votre périple ?
Alors ces mesures, elles ont déjà commencé en fait, parce que le travail expérimental, il commence bien en amont. On a fait des tests en biomécanique, on a eu recours donc à des informaticiens, des spécialistes en physiologie, de manière à la fois connaître notre corps déjà, savoir de quoi nous sommes capables, et ensuite de connaître ce que l'armure implique sur un corps humain. Donc mesurer les effets, les contraintes, les limites biomécaniques impliquées par l'armure et les efforts que l'on doit produire quand on porte l'armure.
Ça veut dire que
et
vous
ensuite,
êtes bien préparé alors ?
Alors, tout à fait. On a bien testé notre équipement et nos propres personnes pour savoir de quoi on est capable. Et ensuite, sur le terrain, on va être accompagné par un médecin, Yann Pascoe, qui va nous suivre pour faire des observations, des tests au fil de la marche.
Alors, vous n'allez pas être seul pour vous mettre en harnois. Vous êtes avec quatre autres cobayes qui, eux, sont plutôt des profils sportifs. Qui sont vos acolytes d'armure, alors ?
Alors, les acolytes d'armure, il y a tout d'abord le copilote du projet, qui est Patrick Seria, qui est un ancien champion paralympique, qui, pour le coup, a échangé le vélo contre un cheval. Mais, si vous voulez, dans son cas, c'est intéressant parce qu'il y a une double problématique. Il y a la problématique de l'athlète de haut niveau, qui s'entraîne et qui retrouve dans cet entraînement que nécessite l'armure un peu de l'entraînement qu'il a connu donc pour devenir un champion olympique, paralympique. Mmh. Et la problématique du handicap, puisque l'armure est une forme d'exosquelette et que dans les articulations de l'armure, les contraintes du métal sur la peau, on retrouve des éléments d'une prothèse.
Alors, si on doit vous donner un dernier coup de main, il y a une partie du projet qui n'est pas complètement bouclée, c'est la partie du documentaire qui va vous suivre. Est-ce que si on veut le voir le jour, on peut vous aider encore ?
Ah oui, tout à fait. Alors effectivement, c'est un projet qui a nécessité de nombreux partenaires. On a eu la chance d'avoir un investisseur privé qui nous a suivis, Cameron Aurélie, un homme d'affaires étranger qui se passionne pour Bayard et qui nous a permis d'amorcer vraiment le projet. Bon, il y a eu des financements de laboratoires, du Labex ITEM, du LARA, du CNRS, du département de l'Isère, de beaucoup de partenaires. Mais c'est vrai que pour le documentaire, assuré par une société de production qui s'appelle Megapixel, nous avons besoin d'un petit coup de pouce. C'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme Ulule. Et tous ceux qui sont intéressés peuvent aller sur Internet et taper « Des chevaliers dans la montagne ». Et ils pourront à ce moment-là voir un peu les étapes de notre projet et nous apporter le soutien qu'ils souhaitent.
Merci Stéphane Gall en tout cas. Et bon courage pour
cette traversée des Alpes. Et pas trop de chaleur.
Absolument, vous souhaitez une température plus basse, évidemment. Merci beaucoup à vous. À très bientôt. Axel, merci. À demain.
À demain Mathieu.